VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Politique en Côte d'Ivoire, le RHDP, le parti du président Alassane Ouattara, a désigné le premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme son candidat à la présidentielle d'octobre 2020. Décision prise dans la nuit de jeudi à vendredi. Je mesure l'ampleur de la responsabilité et l'ampleur de la charge, a affirmé le chef du gouvernement ivoirien dans un communiqué. Âgé de 61 ans et premier ministre depuis 2017, Amadou Gon Coulibaly a accompli toute sa carrière dans l'ombre du président Alassane Ouattara, dont il est un des proches et dont il a la confiance. Pour sa part, l'opposition ivoirienne a menacé jeudi de boycotter l'élection présidentielle d'octobre si la commission électorale qu'elle juge partiale n'est pas réformée avant le scrutin. Les précisions de John Lyndon.
Nous avons la ferme détermination de participer aux différents scrutins présidentiels et législatifs prévus par la Constitution. Cependant, les partis, organisations et groupements politiques de l'opposition ne participeront à aucun scrutin avec l'actuelle commission électorale indépendante, a déclaré Henri Niava, président de l'USD. C'était lors d'une conférence de presse réunissant les principaux partis d'opposition ivoiriens. La commission électorale indépendante ivoirienne a été réformée en juillet 2019 sur injonction de la Cour africaine des droits de l'homme. Mais l'opposition juge qu'elle reste inféodée au pouvoir du président Alassane Ouattara. L'opposition a déposé une nouvelle requête auprès de la Cour africaine des droits de l'homme qui a tenu une audience jeudi sur cette affaire. Sa décision est attendue fin mars. Le numéro 2 du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, Maurice Kakou-Guikwe, a tempéré la menace, se disant assuré que la CEI va changer. Le climat politique est devenu tendu en Côte d'Ivoire à 7 mois de la présidentielle, qui se tiendra 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011, qui avait fait 3000 morts. Les élections municipales et régionales de 2018 ont été marquées par de nombreuses violences et des fraudes.
Politique en Guinée maintenant, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante guinéenne, a choisi le dimanche 22 mars pour la tenue d'un référendum constitutionnel couplé à des législatives. Scrutin initialement prévu le 1er mars. Cette date doit être maintenant soumise à la Cour constitutionnelle et le président Alpha Condé devra prendre un décret pour qu'elle soit proclamée officiellement. Résultat, l'attente pour la nouvelle date officielle du double scrutin continue alors que la mission d'audit de la CEDEAO a pris fin. Plus de détails avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Des réactions à Conakry après la publication des conclusions de la mission d'experts de la CEDEAO. D'abord, la Commission électorale nationale indépendante qui dit avoir adopté mercredi l'ensemble des recommandations de la mission d'audit. L'opposant Sidya Touré qui a reçu à Conakry le même jour le représentant spécial des Nations Unies en Afrique de l'Ouest semblait peu rassuré par la mission d'audit de la CEDEAO.
3 personnes peuvent arriver de la CEDEAO et qu'en 10 jours, ils vont venir dire le contraire. Donc j'estime que tout ce qu'on est en train de phosphorer au niveau de ces 3 experts, ça n'a aucun sens. L'audit du fichier, on le connaît.
Le diplomate onusien qui continue de consulter différents acteurs politiques guinéens plaide pour des élections inclusives et transparentes. Ibn Chambas.
Ce report pourrait constituer une opportunité pour les acteurs politiques en vue de la recherche de solutions consensuelles pour des scrutins apaisés et participatifs. J'ai réaffirmé l'engagement des Nations Unies à accompagner les efforts de la Guinée pour trouver des solutions consensuelles à la crise actuelle.
La mission express de la CEDEAO recommande, entre autres, le retrait du fichier électoral de plus de 2 400 000 électeurs, des électeurs dont les documents administratifs ne sont pas archivés. Patrice Camara du RPG Arc-en-Ciel, parti au pouvoir, ne cache pas sa satisfaction.
Les experts de la CEDEAO que nous saluons ici et dont nous remercions la célérité dans le travail, ont identifié ce problème et sur la base des pièces justificatives réelles ou fictives qui apparaissent, ont simplement demandé d'écraser ce quota-là peut-être ultérieurement, sur la base d'une prochaine révision, que ces intéressés soient appelés pour qu'ils puissent être pris en compte.
Après l'audit de la mission de la CEDEAO, les Guinéens attendent une nouvelle date des élections. Pour Ibrahima Diallo, candidat aux législatives de ADP Bok, il est temps de mettre fin à la série de reports.
Je ne suis pas d'accord avec la CNF, elle est incompétente, c'est ça. Au niveau du comité de suivi, ce comité n'a jamais fait son travail. Donc c'est une responsabilité des deux, y compris l'OIF même. On ne sait pas maintenant, c'est aujourd'hui, c'est demain. Et je sais que nous nous imposons maintenant pour que la date soit fixée. C'est pourquoi nous demandons l'organisation des élections.
D'autres voix se sont fait entendre pour réclamer la séparation des législatives du référendum constitutionnel. C'est une position que défend le CNOCS-DDG, une organisation de la société civile guinéenne qui estime que la proposition d'organiser le référendum constitutionnel n'est pas de nature à calmer la situation politique très tendue en Guinée. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
VOA Afrique en direct de Washington.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Au Niger, 9 soldats nigériens ont été tués jeudi lors d'une attaque à Ayoro, près de la frontière du Mali. Une localité située à 200 km au nord-ouest de Niamey, la capitale nigérienne. L'incursion a été menée par des assaillants qui ont été ensuite neutralisés par une frappe aérienne, notamment grâce à l'intervention de la force française Barkhane, selon une source sécuritaire. La position des forces de défense et de sécurité nigériennes attaquées à Ayoro par des assaillants à bord de moto est située dans la région très instable de Tillaberi, qui est la cible d'incursions djihadistes fréquentes et meurtrières. Conflit au Soudan du Sud, le président sud-soudanais Salva Kiir a dévoilé jeudi les noms de plusieurs ministres clés du gouvernement d'union nationale qu'il a formé avec son rival Riek Machar, devenu premier vice-président, pour tenter de rétablir la paix dans le pays ravagé par une guerre civile dévastatrice. C'est la troisième fois que les deux ex-rivaux gouvernent ensemble avec M. Kiir comme président et M. Machar comme vice-président depuis l'indépendance du pays en 2011. La formation du gouvernement d'union nationale est la clause clé de l'accord de paix conclu en 2018. La menace posée en Afrique par l'épidémie du nouveau coronavirus maintenant, le président du Sénégal, Macky Sall, a exhorté jeudi soir les États africains à combattre de concert le COVID-19 pour éviter que le continent ne devienne le nouveau foyer de la pneumonie virale, alors que son pays est le plus touché en Afrique de l'Ouest. Nous devons rester vigilants et prendre le coronavirus très au sérieux, a déclaré sur Twitter le chef de l'État sénégalais. 5 nouveaux cas ont été confirmés jeudi au Sénégal, ce qui porte à 10 le nombre de personnes atteintes dans le pays, dont 2 ont été déclarées guéries. L'inquiétude est palpable sur place et d'autant plus grande que les 6 derniers cas sont apparus à Touba, dans le centre du Sénégal, ville de quelque 1,5 million d'habitants, considérée comme l'un des plus importants foyers religieux du pays. Quelques 70 personnes ayant été en contact avec les patients sont actuellement recherchées, selon le ministère sénégalais de la Santé. Le coronavirus continue donc de progresser en Afrique et ailleurs dans le monde. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
L'Algérie a enregistré hier ses 2 premiers décès dus au nouveau coronavirus, a annoncé le ministère algérien de la Santé. Au Brésil, le chef de presse de Jair Bolsonaro est porteur du coronavirus. Il a côtoyé le président américain Donald Trump le week-end dernier et le président brésilien qui l'accompagnait aux États-Unis. Avec près de 3000 cas et 61 décès, la France fait partie des principaux foyers d'infection dans le monde. Le président Macron a annoncé la fermeture des crèches, écoles et universités pour contrer la plus grave crise sanitaire qu'ait connue le pays depuis un siècle. Les Italiens doivent rester chez eux jusqu'au 3 avril. Ils peuvent néanmoins sortir pour travailler, se faire soigner ou acheter à manger. Tous les commerces, autres qu'alimentaires ou liés à la santé, ont été fermés. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fermé écoles et universités et il a appelé à la formation immédiate d'un gouvernement d'urgence d'Union nationale. Le patron de l'OMS a, lui, tenté de rassurer en affirmant que cette pandémie était maîtrisable.
Pour terminer le conflit en Irak, l'Iran a mis en garde le président américain Donald Trump ce vendredi contre toute action dangereuse après des frappes aériennes américaines contre des positions d'une milice pro-iranienne en Irak. Mais le gouvernement britannique a jugé ces représailles américaines proportionnées après la mort de deux militaires américains et d'une réserviste britannique lors d'une attaque.